voudraient dormir dans la journée, il y en a qui le font, bien sûr, et qui vivent la nuit, ils ne sont pas très heureux, en fin de compte, ils se déséquilibrent assez vite. Celui qui restera plusieurs jours sans manger aussi se déséquilibrera assez vite. Il y a des rythmes auxquels il convient de se soumettre. Mais ce n'est pas dans un manque de liberté, c'est au contraire dans un accroissement de liberté. Qui se comprend très aisément d'ailleurs, je vous le dis en passant, c'est que je pense qu'il y a des hommes, on le voit bien chez les enfants d'ailleurs, qui ont peur de la nuit. Ils ont peur de la nuit. La nuit, c'est la mort. Et pour certains animaux, pour l'éphémère, qui ne vit pas 24 heures, c'est effectivement la mort. Mais la nuit peut être la mort. Et pour l'enfant, notamment, il a très peur la nuit. Pour le rassurer, qu'est-ce que nous lui disons? Nous lui disons, tu vas dormir, et puis demain matin, il fera de nouveaux jours. C'est-à-dire, nous lui apprenons le cycle de 24 heures. Quand les hommes d'un autre âge, évidemment, ils ont existé, craignaient l'hiver, craignaient cette autre mort de la nature qu'est l'hiver. Ou cette autre nuit aussi, où les arbres n'ont plus de feuilles, où il n'y a plus d'herbe, où il n'y a plus d'animaux, où il n'y a plus de soleil, évidemment, où il y a à peine du jour. Eh bien, les peuples étaient terrifiés, terrorisés à cette idée. Et on le voit bien par la trace des innombrables fêtes liturgiques qui ouvrent les débuts d'année. Que ce début soit au printemps, comme souvent, ou en janvier, comme nous, ou à d'autres moments de l'année, d'ailleurs. Mais ces fêtes étaient là pour dire aux hommes, bien, vous voyez bien, on vous avait bien dit, ça recommence. C'était pas la mort, c'était pas fini. C'était un petit moment dur à passer, et puis, voilà, le printemps est de nouveau là. Vous voyez qu'au contraire, la connaissance des cycles peut être, loin d'être un obstacle à la liberté, peut être un accroissement de liberté, de libération. Libération de la crainte, libération de la peur, libération de l'angoisse. Et ce que font ces prophètes du Moyen-Âge, c'est ça. Dans cette agonie, dans cette angoisse du monde au XIe siècle, XIIe siècle, ils vont dire, mais ce n'est rien, c'est un mauvais moment à passer. Il y a eu d'autres moments, il va y avoir des moments pires que vous ne pensez. Il y a eu des invasions au 8e siècle en Jésus-Christ, nous allons avoir des invasions qui vont tout détruire. Il y a eu des épidémies, les prophètes juifs ont pleuré, ont déploré la nielle qui détruisait le blé, la rouille. Le faire, eh bien, nous connaîtrons d'autres calamités, d'autres fléaux. Nous allons les connaître. Le monde va être dépeuplé jusqu'à son cinquième. Tout bientôt, très bientôt. Mais ça passera, mais il y viendra d'autres périodes. Et ce que disent la plupart des prophètes du Moyen-Âge, c'est ça, je pourrais vous en citer quelques-uns, mais ils sont trop. Ce sont des saintes, au premier point, Saint Hildegarde, Sainte Brigide, Sainte Claire, la bienheureuse Ignace Angèle de Foligno. Ce sont des prêtres, par la suite des cardinaux, comme cardinal de Cuez, Pierre Delis. Ce sont des créateurs d'ordre, ou de grands moines, comme Joachim Flore, cistercien italien, qui est peut-être le plus grand de tous. Et ce qu'ils disent en gros, parce que je suis obligé de résumer, revient à ceci, nous sommes au temps d'Élie. Nous sommes, Flore dit, nous sommes au temps d'Élie, c'est-à-dire Élie a vécu vers 850 avant Jésus-Christ, donc Flore vit vers 1200, il mourra en 1204 exactement. Et nous sommes au temps d'Élie et nous allons connaître les mêmes empires qu'ont connu l'humanité dans l'attente du Christ. Ces empires étaient au nombre de 5. En gros, pour les historiens, depuis les historiens romains, on comptait 5 grands empires, l'empire assyrio-babylonien, l'empire perse, l'empire hellénistique d'Alexandre et de ses successeurs, non, d'abord, l'empire assyrio-babylonien, l'empire perse, l'Empire grec, c'est-à-dire les grandes républiques grecques d'Athènes et de Sparte, le monde hellénistique fondé par Alexandre, et enfin l'Empire romain. Et sur cet exemple, les prophètes disaient, nous allons connaître cinq épreuves, cinq temps d'épreuves, ou certains disent cinq règnes, ou d'autres disent cinq empires. Et tout le problème étant de transposer le canevas ancien au canevas futur, puisque les choses ne se répètent jamais exactement. Il n'y a pas d'éternel retour, entendons-nous bien là-dessus. Aujourd'hui, c'est la même heure, il est 10 heures comme hier, il était 10 heures, mais rien de ce qui était hier à 10 heures n'est ce soir à 10 heures. Sauf que nous sommes à 10 heures comme hier à 10 heures. Donc, il faut savoir que les mêmes rythmes se renouvellent, mais que les figures, les formes, les apparences ne se renouvellent pas. Donc, le problème était de déterminer ce que seraient ces cinq empires. Et au fond, comme l'empire assyrio-babylonien avait été une sorte d'excroissance démesurée d'Israël, des religions de justice qui s'étaient étendues après militairement sur toute l'Asie mineure, eh bien, le premier empire devait être l'immense empire romain germanique issu de Rome, et le temps de l'empire romain germanique devait correspondre au temps de l'empire assyrio-babylonien, et par conséquent, on pouvait prévoir, et les prophètes le prévoyaient, le temps où l'empire germanique disparaît. C'est-à-dire, enfin, à la fin du XVe siècle. Ensuite, il y a eu un empire, la Perse, qui s'est fondé sur le dieu de justice, sur le bélier. Les prophètes juifs honorent les rois perses, les souverains achéménides, Darius, Cyrus, pour être des béliers, des serviteurs du bélier. Et en effet, c'est eux qui vont sauver le peuple juif de la captivité de Babylone. C'est eux qui vont détruire l'empire assyrio-babylonien. C'est eux qui vont instaurer un nouvel empire universel. Darius disait, le soleil ne se couche pas sur mes terres, puisque la Perse allait du fond de l'Asie jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la Grèce. Et cet immense empire, les prophètes du Moyen-Âge disent, il se renouvellera, il y aura de nouveau un empire où, tel que le soleil ne se couchera pas sur ses terres, un empire qui sera chrétien, qui appuiera et rénovera la puissance de Rome, et ça a été l'empire de Charles Quint, ça a été l'empire espagnol, qui a exactement, à l'heure dite, à la fois légitimé le mot de Charles Quint, renouvelant le mot de Darius, le soleil ne se couche pas sur mes terres, ça allait de l'Amérique du Sud jusqu'à l'Asie, et d'autre part, appuyant, renouvelant, effectivement, notamment par ces grands mystiques, Jean de la Croix, Grande Thérèse, etc., et Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, renouvelant le christianisme. Et puis, après cette période de Perse dans l'ancien temps, Espagnol dans notre temps, il doit y avoir le triomphe d'une nouvelle Grèce, et ça, les prophètes savaient très bien quelle était la nouvelle Grèce déjà au Moyen-Âge, c'est l'islam. C'était l'islam qui attendait, préparait le dieu du futur, le dieu de liberté, l'arbre, comme dit Mahomet, l'arbre à venir, exactement comme la Grèce avait préparé déjà l'attente d'un dieu humain, d'un nouveau Prométhée, d'un nouveau sauveur. Et effectivement, il y aura affrontement entre l'Espagne et l'islam, comme il y avait eu entre la Perse et la Grèce. Comme la Perse avait d'abord semblé l'emporter sur la Grèce, l'Espagne l'emportera d'abord sur l'islam. Et les prophètes pouvaient donc prévoir un affaiblissement de l'Espagne. On le trouve chez Tucide jusqu'à Nostradamus au XVIe siècle. Un affaiblissement de l'islam à partir du XVIIIe siècle, consécutif à l'affaiblissement de la Grèce de 1160 ans avant, et une colonisation de l'islam, consécutive à la colonisation de la Grèce par la Macédoine et les pays hellénistiques. Et après cette période, il devait y avoir en quatrième lieu un État aussi matérialiste, aussi dénué de Dieu, dénué de sens de la réalité, dénué du sens du temps, dénué de personnalité, que l'avaient été les siècles hellénistiques, et les prophètes annonçaient tous le temps du désert, le temps du midi, de la sécheresse du midi, puisque là on atteint au grand midi de la journée, d'un monde sans Dieu, d'un monde, les mots sont terribles. C'est saint Hildegarde qui dit dans ce temps-là, bien sûr, les hommes voleront. Vous direz pourquoi les rois savaient que les hommes voleraient. Les hommes voleront et les médecins diront qu'ils ont vaincu la mort. On honorera la loi des Juifs de nouveau, parce que les hellénistiques honoraient la loi chaldéenne, hein, de l'ancien taureau. On honorera la loi des Juifs et on voudra rénover Jéhovah. Mais tout cela sera mensonge, les hommes ne ressusciteront pas, et ceux qu'on aura présentés comme ressuscitants répandront une horreur si pestilentielle que cette odeur suffira à tuer les survivants. Ces hommes, quand ils disaient ça, ce n'était pas pour l'amour de l'horreur, puisque presque tous ces prophètes, je vous ai dit tout à l'heure, avaient annoncé un fléau, le fléau, presque immédiatement. Ceux qui écrivaient au 12e disaient, avant 100 ans, il y aura cette grande invasion, il y aura cette grande destruction. Eh bien, l'invasion, ça a été les Mongols, comme vous le savez, qui ont rasé la moitié de l'Europe et qui ont mis fin à peu près à tout au dernier royaume d'amour. En Égypte, les chrétiens zaguès ont disparu à ce moment-là, les apacites musulmans, mais ouverts à la doctrine du cœur et l'amitié avec Dieu, ont disparu. Les Song, les bouddhistes chinois ont disparu. Et on s'est trouvé devant un monde où là, il n'y avait vraiment plus aucune trace d'État ou de société fondée sur le Bouddha ou le Christ ou d'autres dieux d'amour de l'époque. Et ça, Joachim de Flore l'avait prédit avec la date, il dit en 1260, la chrétienté, c'est fini. Et en 1260, 70 si on va jusqu'à la fin des croisades, c'est vraiment fini. Et après, eh bien, ça a été les pestes noires qui, en 30 ans, partant de l'Inde, partant de l'Asie, ont détruit, selon les estimations, peut-être les deux tiers de l'humanité, peut-être les trois tiers. Il y a des pays comme l'Andalousie qui comptait 36 millions d'habitants au XIe siècle qui n'en contenait plus que 4 millions à la fin du XIVe siècle. Vous avez des villes entières, des villes d'un million d'habitants, comme Angkor, comme Bangkok, qui avaient entièrement, Bagdad, qui avaient entièrement disparu à la fin de cette ruée. Ça a été des années, ça a été très bref, ça a duré en Europe, ça a duré moins de 10 ans. Mais ça avait atteint un tel degré d'épouvante que les gens allaient dans les rues implorant la grâce de Dieu, se flagellant mutuellement, les fameux sectes des flagellants, pour demander au moins ce pardon, s'ils devaient souffrir, que leurs enfants ne souffrent pas, que leurs enfants soient préservés, que leurs parents survivent, que ceux qu'ils aiment survivent. Et ces prophètes avaient dit « ce sera bref ». Et ça a été bref, mais ça a été terrible. Ça a été aussi terrible qu'il a été. Donc, ils ne se trompent sans doute pas davantage, et ils ne se trompent pas davantage, effectivement, dans cette suite d'épreuves, de grandes épreuves qui doivent précéder l'Antéchrist, c'est-à-dire l'annonciateur d'un nouveau Christ.